Le journal, Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La coalition allemande dans la tempête, la CSU veut imposer à la chancelière un durcissement de la politique migratoire et lui lance un ultimatum. La France va être mise à contribution pour accueillir les migrants de l'Aquarius. Près de la moitié des 630 personnes arrivées à Valence hier veulent demander l'asile en France. Simplifier le quotidien des entreprises pour les rendre plus compétitives, c'est l'objectif de la loi Pacte présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Et puis Arnaud Laporte est dans le journal de 18h. Le producteur de la dispute planche sur un sujet du bac philo. Peut-on être insensible à l'art ? La pression continue de se renforcer sur Angela Merkel. Si la chancelière ne trouve pas un compromis sur le dossier des migrants au Conseil européen des 28 et 29 juin, ses alliés bavarois de la CSU envisagent de prendre des mesures pour refouler les migrants aux frontières, ce qui constituerait un tournant majeur dans la politique d'accueil de l'Allemagne. Les précisions de Cyril Sauvageau à Berlin.
Le bras de fer se poursuit entre Angela Merkel et l'aile droite du camp conservateur, incarnée par le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, le chef de la CSU bavaroise, qui mène la fronde contre la politique migratoire de la chancelière, lui a donc fixé cet après-midi une nouvelle date butoir, 2 semaines pour trouver un accord européen, faute de quoi il mettra ses menaces à exécution. À partir du 1er juillet, les migrants déjà enregistrés dans un autre pays d'Europe pourront être refoulés à leur entrée en Allemagne, ce qui revient quasiment à une fermeture des frontières. En théorie, Angela Merkel peut s'opposer à son ministre et le forcer au départ au-delà de cette date, mais cela provoquera l'implosion de sa grande coalition et une nouvelle période d'instabilité politique. Pour éviter d'en arriver là, elle va devoir se démener pour arracher quelque chose au Conseil européen. À défaut d'un compromis global avec les 28, elle pourrait tenter d'obtenir la signature d'accords bilatéraux avec des pays de première arrivée pour les migrants, comme l'Italie, la Grèce ou la Bulgarie, en contrepartie d'une aide financière. C'est l'un des sujets dont Angela Merkel parlera ce soir avec le nouveau chef du Conseil italien, Giuseppe Conte, en visite à Berlin.
Les États-Unis sont eux aussi très divisés sur la politique migratoire. L'administration Trump fait face en ce moment à une polémique sur l'accueil réservé aux enfants de migrants clandestins séparés de leurs parents. Alors que la Maison-Blanche prône une tolérance zéro sur cette question de l'immigration, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer la manière dont ces enfants sont traités, Grégory Phillips.
Elle ne prend quasiment jamais la parole, mais cette fois la première dame, Melania Trump, dit dans un communiqué qu'elle déteste voir des enfants séparés de leur famille et qu'elle espère que démocrates et républicains trouveront une solution au Congrès. Une ancienne First Lady, Laura Bush, dit-elle que cette politique de la tolérance zéro est cruelle et qu'elle lui déchire le cœur. De plus en plus de voix s'élèvent donc après que l'administration a reconnu que depuis la mi-avril, près de 2000 enfants ont été séparés de leurs parents, des migrants clandestins, et placés dans un centre de rétention au Texas. Les autorités ont diffusé quelques images de ce centre dans lequel on voit certains de ces enfants regroupés derrière des grilles, des cages, disent les organisations de défense des droits de l'homme. Donald Trump, lui, pointe du doigt la responsabilité des démocrates qui, dit-il, freine sa réforme de l'immigration, et le président américain tente, dans une série de tweets matinaux, de détourner le débat sur la politique migratoire de l'Allemagne. Nous ne voulons pas que ce qui se passe en Europe avec l'immigration se déroule aussi chez nous.
Grégory Phillips à Washington. La France a bien fait de ne pas proposer d'accueillir les migrants de l'Aquarius. C'est l'avis d'une majorité de Français selon un sondage réalisé par Opinionway pour Public Sénat, Les Échos et Radio Classique. Pour 56% des personnes interrogées, Paris a fait le bon choix. 42% pensent le contraire. La France a tout de même proposé d'accueillir une partie des 630 migrants sauvés au large de la Libye et arrivés hier à Valence. Et selon le gouvernement espagnol, près de la moitié d'entre eux veulent justement demander l'asile en France. Une équipe de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devrait se rendre prochainement en Espagne. Le directeur général de l'OFPRA, Pascal Brice, l'a confirmé à Marie-Pierre Vero.
Nous sommes en contact étroit avec nos partenaires espagnols de manière d'abord à nous assurer du nombre de personnes intéressées, ce qui reste encore à confirmer de manière plus précise. Et nous sommes dans les préparatifs pour rapidement que des équipes de l'OFPRA viennent sur place, entendre les personnes qui seraient intéressées, s'assurer qu'elles relèvent bien du droit d'asile pour rejoindre notre pays ensuite. Le gouvernement français décidera du nombre de personnes accueillies.
Ces missions, vous en avez déjà réalisé de semblables en Grèce ?
Absolument. Pendant 2-3 ans, nous avons conduit de telles missions de l'OFPRA sur place en Grèce, parfois en Italie. Si l'on prend en compte les missions de l'OFPRA depuis 2014, à la fois au Liban, en Jordanie, en Égypte, en Turquie pour des réfugiés syriens, mais aussi aussi depuis un an au Sahel pour des réfugiés africains, en Grèce et en Italie depuis 2015. Ce sont plus de 10 000 personnes qui ont fait l'objet d'entretiens par des officiers de protection l'OFPRA dans ces différents pays et qui ont pu être accueillis en France.
On a entendu certaines voix en Espagne dire qu'au vu des circonstances exceptionnelles qu'avaient traversées ces demandeurs d'asile sur l'Aquarius, il pourrait leur être offert la protection globalement.
Je crois là qu'il faut pouvoir regarder les choses à plusieurs niveaux, au regard de ce que vivent ces hommes, ces femmes et ces enfants. D'abord, de ce qui relève de la souveraineté espagnole et des choix du gouvernement espagnol, et ensuite de ce geste français de solidarité à l'égard d'un certain nombre de ces passagers. Au-delà, la question reste entière, elle n'est pas la nôtre, mais elle se pose bien sûr pour des personnes qui ne relèvent pas du droit d'asile, mais de situations humanitaires. Mais vous le voyez, ce n'est pas la mission de l'OFPRA, et c'est une question qui est d'abord posée aujourd'hui au gouvernement espagnol s'agissant des passagers de l'Aquarius.
Pascal Brice de l'OFPRA. L'Europe doit décider demain si elle interdit ou non la pêche électrique. Cette pratique industrielle développée par les Néerlandais est dénoncée par les petits artisans pêcheurs français, notamment ceux de la côte d'Opale, depuis plus de 3 ans. Les parlementaires européens ont déjà dit stop à une très large majorité. Reste à convaincre la Commission de Bruxelles et les États membres. Aujourd'hui, les pêcheurs se sont donc mobilisés, notamment à Boulogne-sur-Mer, avec des élus et avec l'association écologiste Bloom. Écoutez Frédéric Lemanac, directeur scientifique de l'ONG.
Quand on a commencé à travailler sur la pêche électrique, on s'est vraiment rendu compte que c'était le combat des grands contre les petits qui s'affichait. La pêche électrique, ça a vraiment fait tomber les masques en fait. Et donc on est là aujourd'hui parce que là, les pêcheurs artisans ont vraiment le couteau sous la gorge. Littéralement, ils sont en train de mettre la clé sous la porte. Ils tombent en faillite les uns après les autres. Et donc c'est vraiment important de faire des actions dans plusieurs ports en Europe pour montrer au gouvernement que la pêche électrique, c'est pas du tout le futur qu'on souhaite. À cause de la pêche électrique, tous les artisans sont en train de faire faillite. Et donc nous, notre ambition, c'est vraiment de faire une place en fait à cette pêche artisanale, côtière, familiale, qui produit un poisson de très bonne qualité, avec un impact sur l'environnement très faible, qui ne nécessite pas de subventions publiques pour sa survie. Donc il faut qu'il y ait vraiment une action politique pour leur réserver un droit d'accès à la bande côtière, qu'ils aient accès à la ressource via les quotas, et surtout qu'il y ait la pêche électrique qui soit interdite parce qu'elle les empêche vraiment de vivre.
Frédéric Lemanac de l'ONG Bloom. Le conseil de surveillance de Volkswagen a décidé de suspendre le patron de sa filiale Audi car Rupert Stadler est mis en cause par le parquet de Munich et en prison. Soupçonné d'être impliqué dans le scandale des moteurs diesel truqués, il a été placé en détention provisoire aujourd'hui en Bavière. Si le président du directoire d'Audi a été incarcéré, c'est parce que les enquêteurs le soupçonnent d'avoir voulu influencer des témoins ou d'autres suspects. Nouvel épisode donc dans cette affaire à nombreux rebondissements du Dieselgate, Marc Potvin.
Ouais, bientôt 3 ans que ça dure. Le scandale éclate en septembre 2015. À l'époque, les accusations viennent de l'Agence américaine de l'environnement. Elle reproche à Volkswagen, maison mère d'Audi, d'avoir triché aux tests anti-pollution passés par ses véhicules. Triche grâce à un logiciel qui fausse les résultats. Le groupe automobile finit par avouer. Il reconnaît avoir truqué en tout 11 millions de véhicules, 8,5 à rien qu'en Europe. D'autres marques du groupe sont concernées. Skoda, Seat, Porsche et donc Audi, depuis ce mois-ci. Elle fait l'objet d'une enquête pour soupçon de manipulation des moteurs diesel de 60 000 voitures dans le monde. Le scandale a beaucoup fait parler. C'était même un sujet à part entière pendant les dernières législatives en Allemagne. Quoi qu'il en soit, il a coûté cher à plusieurs figures de Volkswagen. La dernière en date, c'est donc Rupert Stadler, plus haut responsable incarcéré dans cette affaire du Dieselgate. En détention provisoire, il se retrouve aussi suspendu de ses fonctions et remplacé. Décision de Volkswagen qui doit être entérinée par le conseil de surveillance d'Audi dans les prochaines heures. Plusieurs hauts dirigeants de Volkswagen, dont l'ex-PDG Martin Winterkorn, sont inquiétés par différentes enquêtes pour fraude, manipulation de cours de bourse ou publicité mensongère. Ces dirigeants ne sont pas les seuls à payer le prix du Dieselgate. Entre les procédures judiciaires et les rappels de véhicules, il a déjà coûté plus de 26 milliards au groupe allemand.
Marc Potvin. La loi Pacte, ou Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, a été présentée en Conseil des ministres. Le texte vise à favoriser la compétitivité des entreprises tout en associant davantage les salariés à leurs résultats. En le présentant, le ministre de l'économie a voulu répondre aux critiques sur ce texte souvent qualifié de fourre-tout. Bruno Le Maire a au contraire insisté sur la cohérence de ce projet de loi, Catherine Pétillon.
Oui, dessiner un nouveau modèle économique français et redéfinir la place et le rôle de chacun dans l'économie, c'est dans ces termes, rien de moins, que Bruno Le Maire a résumé l'ambition de sa loi. droit. Il inscrit ce texte dans la continuité des mesures fiscales ou de la loi Avenir Professionnel votée demain à l'Assemblée, avec un même objectif assigné, plus d'emplois et de croissance. Alors que ce texte disparate de 70 articles balaye des sujets très divers, le ministre s'est appliqué à en défendre la cohérence autour de l'entreprise et de toutes ses composantes. Il s'agit, dit-il, de les libérer, les protéger, de relancer la croissance. Bruno Le Maire.
L'objectif principal, c'est l'emploi. Et pour ça, nous voulons nous appuyer sur les entreprises, et en particulier sur les PME et sur les entreprises de taille intermédiaire. Parce que c'est elles qui créent des emplois en France aujourd'hui. Donc nous allons simplifier leur vie, nous allons alléger et simplifier ces seuils sociaux et fiscaux qui aujourd'hui pèsent trop sur les entreprises. Nous allons faciliter encore la création d'entreprises. Et puis nous allons permettre aux salariés d'être bénéficiaires de cette croissance d'entreprise en allégeant l'intéressement et la participation pour qu'un salarié puisse se dire « quand mon entreprise marche, j'en suis le premier bénéficiaire ».
Et pour ça, le texte supprime ce qu'on appelle le forfait social, c'est-à-dire les 20% de prélèvements sociaux qui existent aujourd'hui sur ces primes. Voilà qui est censé être incitatif pour les patrons, mais rien ne sera obligatoire. L'examen de cette loi PACTE par l'Assemblée nationale est prévu à l'automne.
Et la loi prévoit également des privatisations. Ce sera le sujet du grain à moudre intitulé « L'État doit-il liquider ses bijoux de famille ?». Les Républicains de moins en moins rassemblés. Virginie Calmels, numéro 2 du parti, vient d'être limogée après avoir remis en cause le management de Laurent Wauquiez. Les critiques de Valérie Pécresse sont moins frontales, mais la proposition de son mouvement libre qui ont été dévoilées pour une Europe refondée à 27 sont des propositions très éloignées de la ligne définie par le président de Les Républicains. Mais peu importe, Laurent Wauquiez garde son cap, Stéphane Robert.
Oui, Laurent Wauquiez a enfourché les thématiques sécuritaires et identitaires il y a déjà quelques années. Au moment des élections régionales en 2015, il faisait déjà campagne sur le thème de la nécessaire défense de la France et des Français face à la menace communautariste et islamiste. Et il est convaincu que c'est la thématique identitaire qui va structurer le débat politique dans les années à venir. On voit un peu partout en Europe la progression des mouvements populistes. Les partis politiques anti-immigration ont le vent en poupe dans bon nombre de pays d'Europe de l'Est, aux Pays-Bas, en Suède et même maintenant en Allemagne. L'extrême droite est associée à l'exercice du pouvoir en Autriche et en Italie. Et en France, Laurent Wauquiez est en train d'épouser cette vague eurosceptique qui monte et qui veut rétablir les frontières nationales. Du coup, politiquement, il poursuit une forme de clarification au sein de Les Républicains sur une ligne politique qui avait déjà fait fuir un certain nombre de personnalités. Alain Juppé, Xavier Bertrand, Dominique Bussereau, Fabienne Keller. Aujourd'hui, ça continue avec la numéro 2 du parti, Virginie Calmels. Le centriste Jean Leonetti qui la remplace n'aura pas trop intérêt à se faire entendre s'il veut rester. Valérie Pécresse est encore là, mais elle a, elle, un pied à l'intérieur du parti et un pied en dehors, avec son mouvement libre qu'elle est en train de structurer comme une sorte de parti à l'intérieur du parti. On peut se demander combien de temps ça va durer. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a beau en appeler au rassemblement de sa famille politique. Sans le rassemblement, rien n'est possible, a-t-il déclaré cet après-midi depuis Pour le 4. Ce n'est pas du tout ce qu'est en train de faire Laurent Wauquiez, qui semble lui avoir plutôt dans l'idée de prendre le leadership de ce qu'on appelle aujourd'hui la droite hors les murs, sorte de patchwork qui pourrait réunir une partie du Rassemblement National ex-FN avec une partie de la droite traditionnelle.
Stéphane Robert, le baccalauréat pour les séries générales et technologiques, les épreuves écrites ont débuté ce matin avec la philosophie. Comme chaque année, notre philosophe maison, Adèle Van Rett, est venue dans le journal de Midi et Demi. Elle a réagi au sujet proposé, en particulier la culture nous rend-elle plus humains ? Également, le désir est-il la marque de notre imperfection ? Des sujets qui vous auraient peut-être inspiré, Arnaud Laporte. Mais je vous ai demandé de plancher sur un tout autre sujet proposé aux candidats de la série ES. Peut-on être insensible à l'art ? Alors, est-ce que ça vous a inspiré ?
Ça m'a plutôt angoissé que vous me demandiez ça, Aurélie. Je crois que c'était moi le philosophe maison. Je quitte ce studio immédiatement. Non, ma réponse évidente à ta question, ça aurait été bien sûr non. Je crois que ce soit un peu court pour votre journal quand même. Alors, peut-être prendre autrement en opposant à cette question une autre question. C'est classique, qu'est-ce que l'art ou qu'est-ce qu'on entend par art ? Alors, si on considère l'acception de notre temps, on pourrait faire entrer l'art culinaire dans notre copie. Alors là, effectivement, on serait tous d'accord pour savoir qu'un plat, on l'adore ou il nous dégoûte. Ce serait assez simple. On pourrait choisir la musique, le plus universel de tous les arts. On pourrait facilement démontrer que hommes, femmes et même animaux sont sensibles à la musique. Donc, c'était trop facile. Je vais rester sur le domaine des beaux-arts. Le scandale des premiers tableaux impressionnistes, inutile de vous le rappeler. Aujourd'hui, un tableau de Claude Monet s'est vendu 81,4 millions de dollars, il y a 2 ans. Les expressionnistes font toujours recette, donc insensibles ni dans le rejet ni dans l'adhésion. Beaucoup de scandales dans l'histoire de l'art, le Sacre du Printemps, Hernani, ou plus près de nous dans le domaine des arts plastiques, le Plug de McCarthy, Place Vendôme, le Vagin de la Reine d'Anish Kapoor à Versailles, Sans parler des colonnes de Buren, on notera que les arts plastiques laissent peu de monde insensible. La sorte de haine que quand même provoquent toujours ces deux mots, art contemporain, toujours très spectaculaire, alors même que les œuvres d'art plastique, pourvu qu'on laisse passer un peu de temps, sont considérées comme des trésors de l'humanité, de Picasso à Rembrandt, de Courbet à Vinci. Peut-être léger retour en arrière, 35 000 années avant Jésus-Christ, les peintures de la grotte Chauvet. Leur beauté laisse peu de doute sur le fait que nos ancêtres ont voulu faire œuvre artistique. Alors si la sensibilité à l'art existait déjà au moment où il fallait quand même surtout s'occuper de sauver sa vie chaque jour, je pense que la question est évidente. On ne peut pas être insensible à l'art, Aurélie Kiefer.
J'aurais aussi pu vous proposer un sujet du bac de France. Comme un personnage de roman doit-il vivre des passions pour captiver le lecteur? Ah oui, je vois que ça vous aurait inspiré, mais on n'a malheureusement pas le temps, Arnaud.
Ah bah j'étais prêt, alors allons-y.
Merci, à tout à l'heure pour la dispute, et puis demain, épreuve d'histoire géo.
Ah bien.
Était-ce un geste envers les lycéens? En tout cas, les perturbations étaient moins importantes aujourd'hui à la SNCF, avec un taux de grévistes limité à 10,80%. Perturbations tout de même dans le RER A à Paris, où un bébé est né dans une rame en gare d'Aubert. Les femmes sont à l'honneur de la troisième grande collecte initiée par le ministère de la Culture. Les premières collectes d'archives avaient été consacrées à la Première Guerre mondiale, puis aux relations entre l'Afrique et la France. Depuis le 9 juin, il s'agit d'enrichir les fonds publics avec des documents sur la vie des femmes. Le grand public est donc invité à faire don d'archives privées, comme des photographies, des documents personnels ou familiaux, des correspondances ou même des journaux intimes. Des documents dont il est parfois difficile de se séparer. Bonsoir Claudia Bertram.
Bonsoir.
Vous avez rencontré des femmes qui s'apprêtent à participer à cette grande collecte.
Oui, elles m'ont raconté la petite histoire qui se cache derrière chaque photographie, chaque document ou chaque objet qu'elles s'apprêtent à donner et qui participe à l'histoire avec un grand H. Lélia Allégret-Ramani n'a pas hésité une seule seconde.
Quand j'ai entendu parler de cette grande collecte, j'ai retenu une chose. Les femmes, certes, mais le travail. Et là, je me suis dit, mais sans réfléchir, mais c'est ma mère.
Sa mère, Marguerite Lavigne, était ouvrière pinceautière. Elle fabriquait des pinceaux, mais aussi des brosses. Aujourd'hui, sa fille ne possède que quelques photos, en noir et blanc, qui témoignent de son travail à l'atelier.
Elle est en train de monter une brosse. Vous voyez, la brosse est toute ronde et cylindrique. Petit trou après petit trou, elle introduit des touffes de poils et à la fin, ça va. Il y avait un côté minutieux et il y avait un côté force. Parce que c'était pas le même travail de faire des petits pinceaux en poils délicats que de faire des grosses brosses. Voilà, ça c'est les pinceaux. Regardez, je vous laisse toucher la douceur du poil d'écureuil ou du poil de martre. Par contre, celui-ci en chien dent est déjà, vous voyez, la rigidité. Si vous voulez, pour moi la brosserie c'était un petit peu... Comment je pourrais dire? Elle m'enlevait ma maman.
Une femme entièrement dédiée à ses pinceaux, donc, mais heureuse et épanouie dans son travail.
Claudia, vous avez également rencontré Anna Joubik. Elle aussi a l'intention de faire don d'archives personnelles qui racontent le travail de sa mère.
Le travail, mais aussi la migration de sa mère, Stana Joubik. Originaire d'ex-Yougoslavie, elle a émigré en France dans les années 60. Grâce au travail, elle a pu se reconstruire et se lancer dans une nouvelle vie. C'est à travers des photos, mais aussi et surtout une petite médaille tricolore, un peu usée par le temps, que sa fille Anna raconte son parcours.
Donc c'est la médaille d'honneur du travail qu'elle a eue, parce qu'elle a travaillé 20 ans à l'hôpital Foch. C'est sa fierté parce que du coup, elle est partie de rien, elle savait pas parler français et elle a appris. Quand elle a eu ce poste-là, c'était une satisfaction, une fierté. Grâce à ce poste-là, elle a retrouvé sa dignité, parce qu'elle est partie avec un échec, avec beaucoup de tristesse, avec... pas une obligation, mais presque, on peut le dire, de partir peut-être du pays, alors que ça se trouve, elle aurait pu continuer à faire sa vie là-bas et elle aurait été tout autre.
Mais alors Claudia, ça ne doit pas être facile pour ces femmes de se séparer de ces photographies ou d'objets très personnels?
Non, faire don n'est pas un geste simple. Lélia, la fille de la pinceautière, possède très peu de choses sur sa mère. Pourtant, le don, c'est comme imposé à elle.
Elle qui ne gardait rien, qui ne voulait surtout pas parler d'elle. Voilà, maman, regarde, tu as beaucoup travaillé. On va déposer tout ce travail, tout ce labeur dans des archives. Parmi d'autres aussi, c'est ça. C'est le côté aussi de cette dimension collective du travail des femmes.
Et c'est là tout l'enjeu de cette grande collecte, car les archives de femmes en France manquent cruellement.
Et ces témoignages, ainsi que celui d'une troisième donatrice, eh bien on peut les écouter sur franceculture.fr dans un article multimédia intitulé « Grande collecte d'archives nationales, trois destins de femmes ». ».
C'est une belle journée qui se profile demain, du moins en ce qui concerne la météo. Le ciel sera parfois couvert en matinée, mais très ensoleillé l'après-midi. Les températures varieront le matin entre 11 et 21 degrés. L'après-midi, il fera 20 à 28 sur une grande moitié nord, 27 à 32 au sud et en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.